Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Pour démarrer cette nouvelle saison de Programme B, on a eu envie de s'inscrire dans la droite ligne d'un de nos épisodes préférés de l'année passée, celui que nous avions consacré à Gaston Monnerville, président du Sénat pendant 21 ans de 1947 à 1968, né à Cayenne, petit-fils d'esclave, un homme noir que l'histoire de la 4e et de la 5e République ont mis de côté au profit de ses contemporains blancs comme Alain Poher, De Gaulle, Mitterrand et bien d'autres. Une fois cet épisode fabriqué, une question nous trottait dans la tête. Comment est-ce qu'on se construit politiquement en tant qu'homme ou femme politique de couleur français lorsque justement la quasi-totalité des modèles républicains sont des hommes blancs, et ce, qu'on soit de gauche ou de droite ?
Vous posez la question de la violence que ça représente pour des gamines de 3 ans, de 5 ans, de 13 ans, de 20 ans ?
Ce que je crois, c'est que la grande nouveauté dans l'expression du racisme, c'est que nous avons aujourd'hui, avec Christiane Taubira, pour la première fois, une femme noire qui a un poste de responsabilité extrêmement important. Une sorte d'effet loup sur une forme de racisme que vivent d'autres personnes.
Je suis donc allé poser la question à deux députés, deux femmes noires au parcours et aux idées différentes, et c'est leur réponse qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Première interrogée, Danielle Obono de la France Insoumise, élue députée de la 17e circonscription de Paris lors des dernières législatives. Elle est née au Gabon, à Libreville. Elle vit en France depuis ses 10 ans et elle a été naturalisée en 2011. Elle milite depuis près de 20 ans à la gauche de la gauche. Et je vais donc retourner ma question initiale, à savoir la complexité de se construire politiquement dans un univers où le référentiel est plutôt monochrome.
Ce qui m'a construite, ce sont les luttes sociales dans lesquelles j'ai milité, les mouvements, le mouvement altermondialiste. Et donc, c'est dans la dynamique des rassemblements contre le G8, des contre-sommets altermondialistes et qui fourmillaient d'images, mais pas tellement d'images individuelles, mais de figures individuelles, mais voilà, de cette multitude de gens portés par leurs idéaux. Et puis après, j'ai rencontré des militants politiques révolutionnaires d'extrême gauche. Et donc, à ce moment-là, les références politiques que j'ai eues sont celles de la gauche radicale, marxiste, trotskiste, des figures comme Rosa Luxembourg. Et puis, au fur et à mesure de mon engagement et de mes recherches, parce que pour le coup, ça ne s'est pas construit automatiquement. C'est les figures que je suis allée chercher vont être celles de la tradition états-unienne, où du coup, il y a des figures politiques noires, des personnalités comme Angela Davis, et puis toute la génération des militantes afro-féministes des États-Unis, y compris des figures plus anciennes de la lutte de femmes noires, de la lutte contre l'esclavage. Voilà, Harriet Tubman, ce genre de figures-là. Donc, c'est par ces recherches-là. Et du coup, effectivement, c'est pas dans le cadre historique ou culturel français, ou en tout cas ethnocentré, parce que il y a eu des figures quelques figures que j'ai découvertes ensuite, comme l'esclave Solitude dans l'histoire révolutionnaire et ce qui devrait être la tradition française révolutionnaire, mais qui est très peu connu, où les grandes épopées des Negmarons ou de la tradition révolutionnaire des Jacobins noirs haïtiens, etc. Donc ça, je suis allée chercher après, en fait, au fur et à mesure de mes lectures et effectivement d'essayer de trouver dans ces traditions de gauche radicale aussi, de marxiste révolutionnaire, bah des figures qui me parlaient par la manière qu'elles avaient empruntées des différentes formes de domination, d'oppression. Donc plutôt voilà, la tradition états-unienne, caribéenne, des personnalités comme Claudia Jones, voilà, où j'ai composé un peu, du coup, cette galaxie, en fait, de références.
Du coup, ce qui est... En fait, c'est un exercice contraint, quasiment. On est obligé de se composer soi-même son propre paysage référentiel, puisqu'on ne nous en propose pas dans le socle commun, dans le socle éducatif historique commun qu'on nous propose à l'école, qu'on nous propose dans le cursus auquel, pour le coup, tous les Français sont confrontés.
Ah oui, disons que... Après, moi, j'ai construit une culture littéraire, historique, scolaire assez classique. Et effectivement, où, à part les quelques incursions qu'on va faire sur Senghor et Césaire... parce qu'il a fallu, pour Senghor, aller jusqu'à l'Académie française et au Panthéon pour figurer comme un auteur reconnu et du coup qu'on enseignait à l'école. Donc voilà, il y a ces quelques petites fenêtres qu'on a, de temps en temps, quelques chapitres sur Harlem Renaissance et la négritude, Senghor, Césaire. Mais c'est vrai que le paysage, pas juste politique, mais voilà, historique, littéraire, est très monocolore, très genré aussi, d'ailleurs. Et donc, ça fait... c'est très peu. Et ça l'est aussi, en fait, de fait, la tradition politique de la gauche radicale, parce que même là, il faut aller chercher soi-même. Après, moi, je suis née, j'ai grandi... au Gabon, et donc j'avais aussi quand même d'autres références culturelles, politiques. Déjà à l'époque, les grandes figures de la lutte contre l'apartheid, des femmes comme Winnie Mandela, comme Myriam Makeba, des personnalités comme Nelson Mandela, ont marqué des figures politiques comme Thomas Sankara, enfin les héros de la lutte des luttes de libération, faisaient partie de ces références culturelles, on va dire de base, que j'avais un peu acquises par la sociabilité de là où je suis née, où j'ai grandi, et de ce que j'avais aussi un petit peu glané ici et là. Mais en plus, comme j'étais à l'école française, on n'apprenait pas beaucoup, justement, ces figures-là. Mais oui. Disons que j'ai aussi eu cet apport-là, familial et culturel de là où je suis née, où j'ai grandi, et où, du coup, dans les années 80, avec toutes les luttes, cette forme de panafricanisme... signifiait qu'il y avait quand même il y a eu aussi une transmission de ce type-là.
Est-ce que c'est un défi, du coup, pour votre génération politique, de faire varier un peu les modèles, c'est-à-dire de faire évoluer les modèles républicains sur lesquels se construit la Ve République et continue de se construire la République aujourd'hui ?
Depuis à peu près 2 ans, j'ai essayé, y compris dans les interventions, d'avoir des références qui n'étaient pas effectivement que des références classiques, en citant des poètes, des poétesses d'ailleurs, ou d'autres figures que effectivement le Jaurès ou au milieu de Marx, j'ai cité dernièrement Stokely Carmichael ou Audre Lorde, c'est aussi d'autres. Parce que y compris, ça fait partie de fait de moi, ma culture politique, c'est pas juste des références pour avoir l'air intelligent et faire preuve de culture, mais parce que ce sont des références politiques qui ont un sens et dont la grille, dont les travaux, l'analyse politique sont aujourd'hui extrêmement utiles donc notamment sur les problématiques de lutte contre le racisme, les discriminations pour l'égalité. Et donc voilà, ce sont des références qui sont extrêmement pertinentes, extrêmement d'actualité. Et donc, il y a effectivement un enjeu de les diffuser, de les faire connaître, de les relayer, comme c'est un peu plus fait aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, et où moi-même, j'ai aussi mis à jour ma culture politique de toutes ces références-là, sur Internet, sur Tumblr, via ces réseaux sociaux. Et donc ça aussi, ça a été une source, en fait, d'apprentissage aussi et d'enseignement.
Évidemment, cette question des références politiques qui nous guide pour cet épisode, elle concerne toutes les tendances. La gauche, on l'a vu, la droite, et même celles et ceux qui revendiquent le dépassement des anciens clivages et donc des anciens modèles. C'est le cas de Syra Sylla, députée également, mais pour La République En Marche, élue dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, celle où ses parents sénégalais se sont installés et où elle est née et a grandi. Je lui ai donc soumis, comme à Daniel Obono, notre interrogation.
Déjà, moi, c'est mon premier engagement politique. Hein. Je n'ai pas fait de politique avant. J'ai fait beaucoup d'associatifs. Ouais. Et moi, au cours de ma vie, je ne me suis jamais définie par rapport à ma couleur de peau. Donc, je ne me suis pas construit politiquement par rapport à blanc ou noir. C'est des idées. Donc, moi, ce n'était pas un sujet pour moi. Ouais. Et en revanche, plus on est en politique, on voit que finalement, la couleur de peau, c'est un sujet. Mais pour moi, dans ma vie, avant tout, j'étais Syra Sylla. Ouais. Point. Voilà.
Vous dites en politique, on se rend compte que c'est un sujet, c'est-à-dire concrètement
fait, moi, je pense que c'est peut-être curieux de dire ça, mais j'ai jamais autant ressenti que je suis noire que maintenant, en fait.
Ouais.
Et on a vu que lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée nationale... Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, et c'est très bien parce qu'aussi, et ce n'est pas seulement une histoire de couleur de peau, c'est aussi une histoire de catégorie sociale. Mmh. Les femmes et hommes politiques, globalement, ne représentent pas l'ensemble de la société à la hauteur de ce que ça devrait être. C'est pareil dans le monde de l'audiovisuel. Et moi, je travaille plus sur les sujets Afrique aussi. C'est peut-être aussi pour cela que ce sujet est plus récurrent. Mmh.
Du coup, en termes de modèles, d'idées, de personnes de référence, vous êtes construit grâce à qui, tout simplement ?
En fait, moi, j'ai eu le goût de la politique grâce à mon père, qui était passionné de politique. Et donc, les débats, j'ai lu beaucoup de bouquins. Et je ne me suis aucunement construit sur des personnes. Après, j'ai des figures politiques que je trouve exceptionnelles, comme Simone Veil, comme Christiane Taubira, qui est aussi, par rapport à la couleur de peau, un symbole, mais qui ne rayonne pas par rapport à sa couleur de peau, mais parce que c'est une excellente femme politique, brillante, qui a de l'aura, qui a une culture exceptionnelle. Mmh. Donc, c'est... Moi, vraiment, la couleur de peau, c'était pas... Je ne me suis pas construit par rapport à un homme ou une femme. Mmh. La politique m'a passionnée. Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Je suis dans le milieu associatif depuis longtemps. J'ai voulu m'engager, tout simplement. Et voilà, j'ai construit mes idées par rapport à ma vie, par rapport à mon entourage, aux valeurs que mes parents m'ont inculquées. Voilà, aux principes républicains.
Et justement, si on veut que l'Assemblée ou de manière générale le monde politique et le monde public, c'est-à-dire l'audiovisuel et toutes ces sphères, on va dire toutes les sphères du débat public, soient plus proches de la réalité de ce qu'est la diversité de la société française, il faut que des figures issues de la diversité émergent.
Bien entendu. Et c'est pas le cas, donc ils doivent prendre leurs responsabilités et mettre des personnes issues de la diversité à des hauts postes à responsabilité. Mmh. Parce qu'il y en a, ça existe. Et je suis peinée de voir que sur les services publics, par exemple, c'est pas le cas. Mmh. Donc que font les responsables ? Mmh. C'est eux qui ont la main là-dessus. Et ils peuvent le faire. La société française est multiculturelle. Et c'est bien de parler, mais il faut passer à l'action. À un moment, il faut des actes forts, quoi. Des actes forts. La question de la visibilité, on en a parlé avec le président de la République, par exemple, la semaine dernière. Il y avait un événement sur les diasporas africaines. C'est pareil dans les entreprises. Moi, je suis avocate de profession. Où je le vois dans des réunions avec des, on va dire, avec des élus. Des fois, je suis la seule noire sur toute une... Mais c'est pas ça, la France. Ouais. C'est pas ça. Donc il faut des volontés politiques fortes, il faut que dans le secteur du privé, les dirigeants prennent leur responsabilité. Certains se sont engagés grâce à Emmanuel Macron là-dessus, et il faut le faire.
Mais est-ce que ça doit passer du coup par la loi, par un encadrement ou une contrainte plus forte à afficher cette diversité, ou est-ce qu'il faut attendre que ça vienne directement de ces dirigeants, de ces constitués, de ces assemblées, de ces institutions?
Moi, c'est encore une question pour moi, parce que je ne suis pas trop pour imposer. Et je relis ça à la question des femmes, où on va dire, on parle d'égalité femmes-hommes depuis des années et des années. En fait, le compte n'y est pas. Donc moi, sur ce, par exemple, l'égalité femmes-hommes, je me suis dit peut-être qu'il faut finalement imposer. Quand on voit un pays comme le Rwanda, je suis président du groupe d'amitié Rwanda-France, la présidente de l'Assemblée est une femme, ils ont imposé des choses. Donc est-ce qu'il faut vraiment, ce serait malheureux, moi j'ai pas envie qu'on impose, mais si à un moment ça bouge pas, bah, peut-être qu'il faudra imposer, mais ce qui veut dire discriminer en fait, et c'est ça qui me dérange. Moi, je me suis certain, et moi, j'ai pu aussi le ressentir, on est traité comme des Français de seconde zone, alors que l'on est né en France. On est peut-être même plus Français que certains. J'aime pas trop le terme blanc. Moi, mes parents sont originaires du Sénégal. Le Sénégal était un territoire d'outre-mer avant. Voilà, donc je suis né en France, et ce sentiment, je l'ai eu en ayant le parcours que j'ai eu. Hein. J'ai été à l'université, je viens d'un quartier, j'ai été à l'université, je suis devenue avocate. En fait, il faut que les Français comprennent qu'il y a une part d'Afrique aussi en eux, quoi, parce que le destin de la France est lié aussi à l'Afrique. Je veux dire, c'est un peu tabou, on n'en parle pas trop de ces choses-là, mais il faut mettre les pieds dans le plat. Et ça, le président le fait sur les thèmes des diasporas. Moi, je travaille sur les diasporas africaines, je vais partout dans toute la France. C'est criant, il faut que les gens prennent leurs responsabilités.
Est-ce que finalement aussi, l'un des problèmes, c'est qu'on n'apprend pas cette histoire-là à l'école, qu'on n'apprend pas ces liens, qu'on n'apprend pas cette diversité tout simplement à l'école, les liens avec l'Afrique, les liens avec le Maghreb?
Vous avez totalement raison, tout part de l'éducation. Et on ne nous l'a pas assez expliqué à l'école. Il n'y a pas très longtemps, nous avions commémoré l'abolition des traites et des esclavages. J'étais ravie que le président de la République prenne position et dise qu'il faut revoir les manuels scolaires, au programme, on va plus expliquer aussi les choses positives. En fait, nous, à l'école, on nous a présenté les choses plutôt négativement. Donc, tout part de l'éducation, oui, et dès le plus jeune âge, il faut expliquer vraiment l'histoire de la France et de l'Afrique, les liens, valoriser ce qu'il y a à valoriser, montrer, parce qu'il y a beaucoup de points qui nous rassemblent, en fait. Et ça, c'est dès le plus jeune âge, et en effet, oui, c'est pas fait.
C'est donc à la fois sur une bonne et une mauvaise nouvelle que nous démarrons cette saison. La mauvaise, c'est qu'il y a encore énormément de chemin et de boulot avant qu'on arrive à mettre à plat tout ce qui nous sépare de l'égalité qui est censé véhiculer notre idéal républicain. La bonne, c'est que ça veut aussi dire qu'on a encore des tonnes de sujets à traiter dans ce podcast. Merci à Daniel Obono et Syrah Silla pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à jeudi pour un nouvel épisode, parce que demain, n'oubliez pas, c'est Binge On Air. Binge Audio se transforme en radio pour 24 heures. C'est à suivre sur la plateforme Twitch ou sur notre site binge.audio. Il y a des chances pour qu'on se marre bien, alors soyez là. À demain.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.